Alors, je vais dès à présent céder la parole aux trois intervenants s'ils souhaitent réagir aux choses qui viennent d'être dites. Et puis, après, dans un second temps, on se tournera plus généralement vers la salle. Et j'encourage évidemment tout le monde et aussi évidemment les étudiants à poser toutes les questions qui leur passeraient par la tête. Alors, je ne sais pas si quelqu'un. Si... Oui, Sandrine Lefranc? On commence par vous. Ah oui.
Bon, je vais essayer de répondre. Je vais répondre aux nombreuses, enfin, peut-être pas à toutes les questions qui ont été posées, très intéressantes, évidemment. Julien Pierret a tout à fait souligné que les guillemets qu'on a mis autour des mots peuple et judiciaire se justifiaient également dans le procès de Marie-Antoinette. Je suis assez d'accord avec son analyse. Et je pense, comme lui, et je réponds en même temps à la dernière question de la présidente, que la notion de peuple est éminemment problématique dans toute cette affaire. Et je dirais que moi, j'ai lu le procès de Marie-Antoinette avec derrière les travaux d'Hannah Arendt, puisque je fais une thèse sur la pensée du droit de Hannah Arendt. Et Hannah Arendt a précisément écrit L'essai sur la Révolution, qui est un livre dans lequel elle propose une comparaison entre la Révolution française et la Révolution américaine, en mettant en évidence justement un rapport extrêmement différent à cette notion de peuple, avec du côté français, et pour le dire de manière très schématique, une obsession typiquement française de l'unité du peuple, d'un peuple, d'une nation une et indivisible, qui, évidemment, si on veut tracer une filiation intellectuelle par rapport à cette obsession révolutionnaire française, on pense forcément, et Arendt fait des liens tout à fait évidents, à la pensée politique de Rousseau et cette volonté générale, comme ça, qui est produite de manière quasi magique et qui a cette spécificité d'être une et indivisible. Alors que, en tout cas, c'est la lecture que propose Hannah Arendt. Dans le cas de la Révolution américaine, on aurait une prise en compte de la pluralité et que le peuple serait, de ce côté-là de l'Atlantique, conçu comme quelque chose, comme une réalité vivante et plurielle. Donc ça, c'est un élément de réponse. Peut-être je passe alors aux questions de la présidente. Le parallèle avec les procès de sorcellerie est très intéressant. On avait d'ailleurs pensé, au moment d'organiser ce colloque, à parler des procès de sorcellerie. Et voilà, Thomas Berndt en a parlé hier. Moi-même, j'ai été confronté à la question d'une possible comparaison entre les procès de sorcellerie et le cas de Marie-Antoinette. Et là, tu as tout à fait vu, en effet, en tout cas, tu me suis dans ce que j'ai suggéré, donc, c'est-à-dire ma proposition de prendre les textes qu'on a gardés du procès de Marie-Antoinette comme des textes des textes de persécution. Et évidemment, les procès de sorcellerie sont également des cas de persécution. Ce qui est intéressant, je pense, là-dedans, c'est de se rendre compte que, dans un côté comme de l'autre, on a affaire à des femmes. Je pense que ça, c'est l'élément tout à fait déterminant. Et la persécution dont est l'objet Marie-Antoinette est tout à fait liée au fait qu'elle est une femme. J'en ai parlé de manière allusive dans mon exposé, mais il y a beaucoup de littérature contemporaine sur le symbole féminin que représentait Marie-Antoinette. Alors que les formes judiciaires soient fascinantes, comme tu l'as suggéré, je suis absolument d'accord, et qu'elles ont le côté performatif du procès, je vais dire, est frappant dans le cas de Marie-Antoinette, et peut-être se retourne à un moment contre le tribunal lui-même, contre le tribunal révolutionnaire lui-même. J'avais parlé de cette accusation d'inceste. Il est intéressant de constater que finalement cette accusation d'inceste n'a pas du tout fonctionné au procès. Il y a un mot célèbre que je ne vais pas citer, mais qu'on peut retrouver facilement. La réponse de Marie-Antoinette à ce moment-là a été remarquée parce qu'elle dit « j'en appelle à toutes les femmes qui se trouvent ici ». Et il y a un moment très solennel qui, à ce moment-là, dans ce procès, car il paraît assez évident, déjà au moment du procès, que cette accusation ne tient pas tout à fait la route. Et on rapporte d'ailleurs, mais c'est un témoignage indirect qu'il est difficile de vérifier sur le plan historique, mais on rapporte que Robespierre était tout à fait furieux de cette accusation d'inceste qui avait été montée contre Marie-Antoinette, parce que c'était l'occasion pour elle de se présenter sous un jour favorable aux yeux du peuple. Voilà.
Je tiens d'abord à remercier Julien de m'avoir ôté d'un doute sur mon patriotisme. Je suis une de ces créatures qui fait beaucoup de guillemets dans l'air, et je sais maintenant que c'est ma francité qui s'exprime de cette manière. Donc je tenais à le remercier. Et puis sur ma francité toujours, je me suis demandé où j'avais fait passer le peuple, effectivement. Donc je l'ai cherché, et en fait, il est bien dans cette affaire. Enfin, les commissions de vérité sont très clairement des dispositifs gouvernementaux ou mis en place par des organisations internationales, gérées par des élites, sur des registres experts. Cela est une évidence, mais dans le même temps, le peuple s'y invite. Alors le peuple ici, ça n'est pas un paquet, une masse, ça n'est pas une majorité, ça n'est pas un ensemble de personnes, c'est davantage dans ce que je connais du déroulement de ces processus, des propositions qui visent à repolitiser, c'est-à-dire à raconter l'histoire d'une manière qui peut permettre l'introduction du peuple. Et en l'occurrence, très clairement, ce que je vous ai raconté n'est qu'une partie de l'histoire, et ces registres experts ou ces registres qui imposent à la victime de se penser comme une victime, j'y reviendrai un petit peu peut-être, sont des registres qui ont trouvé des résistances, qui ont rencontré des résistances, et qui ont rencontré des résistances à la fois dans l'occupation de l'espace ouvert aux victimes dans le cadre de ces commissions, mais aussi des résistances dans la capacité de certaines de ces victimes, ce sont toujours des victimes mobilisées, militantes dont je vous parle, à utiliser le langage du droit notamment, ou à utiliser un langage moral par ailleurs, à utiliser les différents registres de discours utilisés par ceux qui fabriquaient alors le récit supposé devenir le récit légitime, capacité à retourner ces langages-là de manière très habile, notamment en faisant des commissions de vérité et de réconciliation, ces dispositifs qui sont supposés avoir une efficacité immédiate dans les après-guerres, dans les après-violences, pour fermer le chapitre. Il se trouve que très souvent, les récits qui ont été proposés par ces instances ont permis au contraire de maintenir la brèche ouverte, alors jusqu'à la réactivation de poursuites judiciaires très minoritairement, mais en tout cas jusqu'à, avec la pérennisation de mobilisations politiques qui justement font ressurgir quelque chose qui est vraisemblablement quelque chose à voir avec le peuple. Peuple en l'occurrence, peuple survivant plutôt que victime, hein, si j'essaie de synthétiser mon affaire. Sur la question de la véracité, où est-ce qu'on localise la véracité, alors ça c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre de manière très claire, savoir si dans les différentes espèces de vérité qui nous sont offertes là, on pourrait repérer un plus grand degré de véracité, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse davantage encore, c'est plutôt les modalisations, merci encore Julien, les modalisations, les formulations, les registres de reconstruction de la vérité du passé et du futur en même temps. Et là encore, je retombe sur cette idée de la variété, de la très grande divergence qui peut exister entre une manière de raconter les choses qui reconnaît qu'il s'agissait d'affrontements politiques et une manière de raconter des choses qui rappelle que les victimes sont des mères endeuillées, il s'agit de leur rendre leurs enfants, bref, une manière de raconter des choses qui parlera de souffrance, qui parlera de deuil qui n'est pas fait, qui parlera de guérison à atteindre. Il me semble que là, la différence est importante. Ce qui me permet, dans ce jeu entre le politique et le moral thérapeutique, d'autre part, de répondre à une question brutale, la vérité certaine des intérêts de l'État, enfin c'est la vérité qui est construite là, de l'État non pas, parce qu'il me semble précisément que les récits qui sont proposés, et même la construction et la formalisation pour partie juridique de la vérité qui est proposée dans ces instances-là, ne va pas dans le sens d'une formalisation, enfin d'une reconstitution d'une justice d'État avec un juge en position de surplomb, avec des catégories juridiques réaffirmées. Et ça correspond à d'autres aspects de mes recherches où j'essaye de voir justement, Julien l'a évoqué, donc je dois en faire mention rapidement, d'autres aspects de mes recherches où j'essaie de montrer que ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs d'après-conflit, nous apprennent, enfin contribuent aussi à l'évolution d'un sens commun de la justice, d'une manière de se représenter le fonctionnement de la justice et plus largement d'une manière de penser aussi bien dans des pays d'après-conflit que dans les démocraties les plus établies et les plus riches, une manière de concevoir la résolution des conflits et qui justement tend à mettre les instances classiques, étatiques, les figures habituelles des professionnels du droit un petit peu entre parenthèses jusqu'à leur retour. Donc il y a quelque chose là qui se joue du côté d'une informalisation du droit au moins provisoire. Sur l'émotion, qui serait un indice de factualité, je voulais juste signaler que dans les cas que j'avais pu étudier, l'émotion reste tout autant un registre utilisé spontanément par les victimes qu'un registre imposé. De fait, les commissions de vérité et de réconciliation, notamment cet emblème sud-africain, sont des instances qui vont inciter très fortement le déploiement des émotions et qui vont, pour ce faire, utiliser des techniques qui sont soit des techniques religieuses, soit des techniques thérapeutiques. Et c'est vraisemblablement tout à fait, enfin c'est en tout cas le résultat d'un travail un peu systématique qui a permis de considérer la commission sud-africaine comme un tribunal des larmes ou comme une commission Kleenex. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un outil important et qui correspond à d'autres phénomènes sociaux par ailleurs. Et la victime qui est construite là a aussi sans doute beaucoup à voir avec la victime qu'on construit du côté de l'humanitaire, enfin voilà, dans un rapport brut d'expression de l'émotion. Puis je voulais juste, mais là peut-être ouvrir la voie à d'autres questions. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée dans les études que j'ai évoquées, notamment dans ces rapports entre tribunaux pénaux internationaux et d'autres instances, les tribunaux populaires, les commissions de vérité, autour des formes du droit justement. Comment ça bouge, le mot de bouger employé par Julien colle bien là encore. Comment par exemple les tribunaux pénaux internationaux, quand Ornella nous en parlait, adoucissent certaines formes du droit, notamment avec ce merci à la victime, ou la norme 55 qu'a évoqué Elisabeth hier. Comment les commissions, elles, qui doivent ne pas faire du droit, tout simplement parce qu'on leur demande de ne pas en faire, parce qu'il s'agit de ne pas poursuivre, empruntent certains aspects du langage juridique, ou comment les tribunaux populaires, de manière très paradoxale, je trouve, sont finalement les institutions les plus formelles, les plus avides de reproduire du rituel juridique. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir un peu comment les choses bougeaient de part et d'autre. Voilà.
Bien. Alors oui, effectivement, je suis tout à fait... Il est évident que pour un certain nombre de tribunaux non gouvernementaux ou populaires, on agit au nom du peuple. Et c'est d'ailleurs un outil de légitimation de l'existence et de l'initiative de créer des tribunaux. Mais bien souvent, effectivement, ce sont des experts, c'est un petit groupe de personnes particulièrement éduquées, intellectuellement très bien formées, etc., qui vont prendre la parole au nom du peuple. Néanmoins, dans un certain nombre de tribunaux populaires, et je pense ici au tribunal international de l'eau, qui ont notamment eu des sessions en Amérique du Sud, mais aussi au tribunal international des femmes qui s'est tenu à Beijing, entre autres, et auparavant lors de la conférence de Vienne. Les témoins, il y a eu un effort réel qui a été fait pour inviter les victimes, les victimes des différentes exactions, les victimes des exactions des compagnies pétrolières et notamment d'atteinte à l'environnement concernant le tribunal de l'eau, les victimes de la violence contre les femmes pour ce qui est du tribunal de Beijing et le tribunal de femmes de Vienne. Certes, ces femmes ne représentent pas le peuple, elles viennent avec leurs propres histoires, mais leur témoignage a été sélectionné de façon à donner une bonne représentativité des différents cas de violation qui se produisent. Alors, certes, on ne peut pas, c'est difficile de tenir l'argument, effectivement, que l'on agit au dos du peuple. Mais ça, vous savez, en ce qui concerne, quand on regarde l'action des organisations non gouvernementales, très régulièrement, les organisations non gouvernementales qui prennent la parole dans des instances spécialisées, comme les Nations Unies par exemple, et à leur très grande majorité, ce sont des organisations non gouvernementales du Nord. Pourquoi du Nord ? Bien parce qu'elles ont les moyens financiers d'assister aux différentes sessions et conférences, d'une part, et d'autre part, parce qu'elles connaissent très bien les rouages, non seulement du droit international, mais de la bureaucratie internationale. Et elles vont avoir un accès privilégié. Et pour légitimer leur prise de position ou la parole qu'elles vont retransmettre et qui parfois provient des organisations du Sud, eh bien, elles disent s'exprimer au nom du peuple, au nom de certaines organisations, au nom du peuple, d'une certaine catégorie de personnes qui vont être, dont les droits fondamentaux vont être violés. Alors, ça fait partie d'un langage qu'on peut absolument remettre en question et qu'on a intérêt, il est légitime de remettre en question ce type de langage. La fonction du juge devant les tribunaux populaires, au fond, ce n'est pas très important. Qu'il s'appelle juge, qu'il s'appelle jury, qu'il s'appelle membre, participant, initiateur, en soi, ce n'est pas très important, si ce n'est sur le plan de la symbolique. Et ce qui va être important, c'est le fait que ces personnes vont accepter de siéger autour d'une table, d'entendre des témoignages et de rendre par écrit un argumentaire basé sur les faits qu'ils ont entendus avec une interprétation juridique particulière. En ce sens, ils vont remplir un certain nombre d'actions du processus dans l'acte de juger, sans pour autant s'y coller aussi étroitement qu'un professionnel. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des professionnels, la plupart du temps, de la justice. Les gens qui siègent dans les tribunaux populaires sont, souvent d'ailleurs, il y a des juristes en droit international, etc., mais ce ne sont pas des juges. Et pour cause, il y aurait probablement un conflit d'intérêts, et ça serait très facile à ce moment-là, dans un procès portant sur un sujet similaire, de demander la récusation d'une partie du banc. On sait à quel point ça peut affecter la présence de certains, que le lien avec des organisations non gouvernementales ou un positionnement activiste peut remettre en cause le maintien d'un juge dans un banc. Je pense au procès Pinochet, mais le cas s'est posé aussi au niveau du TPY et du TPIA. Sociologie des mouvements sociaux, oui, je l'ai approché dans ma thèse. La présentation que je vous fais est un extrait d'à peu près 80 pages de ma thèse qui est en fait 600. Donc, il y a bien d'autres aspects qui ont été traités. Les tribunaux populaires s'inscrivent, bien entendu, dans un mouvement plus général de contestation ou de positionnement qui va être alimenté par des individus, des activistes et des organisations non gouvernementales. Avec une mise en place de réseaux, d'échanges d'informations, donc tout un tas de techniques de lobbying qui vont se mettre en place, aussi bien au niveau des institutions internationales qu'au niveau gouvernemental, et ensuite au niveau même des autres organisations non gouvernementales pour pouvoir créer un réseau, pouvoir créer une coalition qui va agir dans un certain sens. Pour ce qui est de l'intervention de Madame la Présidente, cette histoire, est-ce que l'histoire racontée dans les tribunaux populaires est-elle racontée véritablement de manière différente de celle qui est racontée ou narrée dans le cadre officiel ? Je dirais oui, parce que ce que l'on recherche, c'est à partir d'un certain nombre, d'abord c'est d'établir des données factuelles qui vont contredire un discours ambiant ou un discours dominant, premièrement. Et deuxièmement, c'est d'interpréter dans le cadre du droit, d'assigner une signification juridique à ces faits, à ces données factuelles, en se basant, et c'est là où, je pense, la participation ou l'imaginaire prend le dessus dans les tribunaux populaires, en s'appuyant non seulement sur le droit international traditionnel, donc la coutume, le droit des traités, etc., mais la jurisprudence internationale, mais en plus on va aller chercher de la justification, des arguments juridiques dans de la soft law, produite par des organisations comme les Nations Unies, par exemple, ou d'autres organisations internationales, mais aussi on va aller chercher un argumentaire juridique dans les instruments développés par les organisations non gouvernementales. Donc la charte contre la pollution environnementale, par exemple, qui a été élaborée par le tribunal permanent des peuples. Et c'est là où, dans un certain nombre d'affaires, on voit que l'imaginaire ou que la surinterprétation, on va dire, du droit, ou la hiérarchisation différente des valeurs dans le droit, va permettre de façon prospective d'avancer un certain nombre d'arguments juridiques qui, curieusement, à un moment donné, vont se retrouver à l'agenda diplomatique. Je pense, par exemple, au droit à l'eau. Au droit à l'eau, quand le tribunal de l'eau en parle pour la première fois dans une affaire qui s'appelle Galilée Society contre État d'Israël, qui concerne donc la question du branchement ou de l'accès à l'eau des populations nomades bédouines qui se trouvent en Israël. Le droit à l'eau, en tant que droit économique et social, en tant que droit humain, est encore à ses prémices dans les instruments internationaux. On commence à réfléchir à droit à l'eau en tant que droit humain dans le milieu non gouvernemental, et c'est ce qui va être amené, le lien qu'on va faire entre les droits humains et le droit de l'environnement. Parce que l'eau est essentiellement vue comme un objet à protéger du point de vue du droit de l'environnement. Et ce que va faire le tribunal de l'eau dans cette affaire, c'est franchir cette espèce de barrière invisible qui existe entre deux domaines du droit pour essayer de donner une nouvelle existence, un nouveau corpus, de nouveaux contenus à un droit à l'eau en tant que droit humain. Et ça prend le devant, finalement, sur une réflexion qui, au niveau international, n'est pas encore, dans les institutions internationales, vraiment formalisée. Alors, ce sont des processus, ça peut avoir, et là, je pense que ces tribunaux peuvent être intéressants parce que des arguments peuvent être développés et par la suite, donc, on pourrait comme penser qu'ils peuvent agir comme des sortes de pépinières normatives. Et vous savez comme moi, dans des pépinières, vous avez des arbres qui poussent et d'autres qui ne poussent pas. Mais c'est normal. Donc, voilà ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup. Alors maintenant, on va se tourner vers la salle et voir si les uns ou les autres veulent prendre la parole. On va peut-être prendre deux ou trois questions et puis on verra s'il y a des réactions sur le banc. Olivier Corten.
Oui, je voulais revenir brièvement sur le Marie-Antoinette et en particulier, si j'ai bien compris, la dimension quelque peu sexiste du jugement, dans la mesure où finalement ce qui était démonisé, c'était aussi la femme, si j'ai bien compris, dans une certaine mesure dans le procès. Et je me demandais si on comparait, en tout cas avec d'autres procès, est-ce que c'est tellement vrai, ou en tout cas relativement. Je pensais par exemple au sort d'Elena Ceaușescu, qui a été elle aussi jugée en beaucoup moins de temps que Marie-Antoinette, de manière encore plus expéditive, et surtout, finalement, pour des crimes dont on ne sait pas très bien si on les lui reprochait à elle-même, en tant qu'individu, ou uniquement en tant qu'épouse du dirigeant de la Roumanie de l'époque. Alors que dans le cas de Marie-Antoinette, si j'ai bien compris, justement, on respecte en quelque sorte sa personnalité, son identité, on lui reproche ses actes propres, et même on y voit une puissance peut-être encore plus considérable que celle de Louis XVI. De ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un plus grand respect de la femme dans le procès de Marie-Antoinette que dans le procès d'Elena Ceaușescu.
François Dubuisson.
Voilà, en entendant les trois interventions et puis les commentaires qui ont été faits, il y a un élément qui m'a frappé et qui a renvoyé également à d'autres cas qu'on a examinés lors de ces colloques et qui permettent sans doute d'être un élément d'analyse pour examiner les liens entre le juge, l'instance judiciaire et la production de la vérité. C'est le fait que dans les trois cas qu'on a examinés et dans d'autres cas qu'on a examinés hier, on a à chaque fois la création d'une instance judiciaire ou quasi-judiciaire a posteriori. C'est-à-dire que dans le cas des commissions vérité-réconciliation, dans le cas du tribunal révolutionnaire, les cas des tribunaux d'opinion, les cas des tribunaux pénaux internationaux, le cas du tribunal de Nuremberg, des tribunaux mixtes, à chaque fois ce sont des instances judiciaires ad hoc ou quasi-ad hoc qui sont créées après que les événements ont eu lieu. Et on estime qu'il faut une réponse judiciaire ou quasi-judiciaire ou un substitut à une réponse judiciaire par rapport à ces événements. Et ça veut donc dire que lorsqu'on crée cette instance, on sait exactement par rapport à quels événements on veut réagir et finalement quel est le rôle et la vérité que l'on veut produire à travers ces instances. Donc là, je pense qu'on a un élément assez particulier qui serait intéressant d'analyser de manière transversale. Par exemple, si on compare avec la Cour pénale internationale qui, elle, a maintenant une existence a priori, il faudrait se demander est-ce que ça va produire des résultats différents que les TPI, par exemple, où là, à chaque fois, le Rwanda, la Yougoslavie, on se dit qu'il faut une répression, alors que, par exemple, dans l'Afrique du Sud, on se dit qu'on ne va pas avoir une répression pénale pure et simple, mais plutôt une alternative, avec évidemment les limites que cela. Et la Cour pénale internationale, c'est une cour qui existe avant les événements qu'elle va être amenée à traiter, avec quand même un petit bémol concernant la saisine par le Conseil de sécurité, où là, la Cour pénale reprend une fonction de tribunal ad hoc, presque créée a posteriori par le biais de la résolution.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres interventions, réflexions? Oui, Peter Lagroux.
J'ai une question pour Sandrine Lefranc. Dans les deux autres communications, on insiste comment on s'en réfère au registre judiciaire, juste jusqu'au mimétisme. Or, il semble que dans la commission Vérité et Réconciliation, on décide très délibérément de ne pas organiser de procès. Et donc, on n'est pas dans le référentiel judiciaire. Alors, quel est cet autre référentiel? Et est-ce qu'il ne serait pas, en partie, religieux, celui du confessionnel, ce qui, dans le cas sud-africain, semble clair? Est-ce que le référentiel n'est pas plus religieux que judiciaire, puisqu'on veut s'en distancier?
Bien. Eh bien, alors, je cède la parole à Sandrine Lefranc.
Réponse assez facile. Si les commissions de vérité et de réconciliation ne parlent pas le langage du droit, c'est parce qu'elles n'ont pas le droit de le parler. C'est-à-dire, très clairement, lorsque des gouvernements mettent en place des commissions de vérité et de réconciliation, c'est aussi une manière d'entériner des lois d'amnistie, et donc l'incapacité de la justice à se mettre en action d'une manière ou d'une autre, sauf quelques exceptions. Donc le langage judiciaire est barré. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas introduit d'une autre manière dans notamment les catégories utilisées par les commissions pour reconstruire l'histoire. Et il y a quand même quelque chose d'assez frappant. On ne parle pas de crime, on parle bien de violation grave des droits de l'homme et on utilise pour ce faire des catégories qui sont des catégories du droit. On utilise aussi pour reconstruire ces histoires les compétences de juristes, n'agissant pas en tant que juristes, mais agissant en tant que personnes dotées d'une raison, d'une sensibilité, enfin, de choses comme ça. Mais ça réintroduit très clairement des éléments du droit. Quel est le langage qui est parlé? Est-ce que c'est un langage religieux? C'est très variable en fonction des institutions, hein, soyons honnêtes. Effectivement, en Afrique du Sud, on a parlé un langage qui est de part en part, sinon un langage religieux, en tout cas un langage politique appuyé sur un très fort registre religieux, et pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi un registre thérapeutique. Il me semble que ça dépend vraiment des institutions que l'on prend en compte, mais en lieu et place du langage qui, langage judiciaire classique, part de catégories juridiques et construit son raisonnement à partir de là, on a construit quelque chose comme un langage hybride très fort, avec des effets extrêmement importants sur les interactions dans ces espaces-là. Enfin, ça a créé des choses, c'est pas juste de l'appareil oligarchique, hein, ce dont je vous parle, que ce soit clair, mais c'est un langage qui emprunte beaucoup au religieux et emprunte beaucoup aussi à la thérapie, d'où cette construction très particulière de la figure de la victime. Oui.
Voilà, Vincent, si...
Donc, merci Olivier pour cette question. En fait, j'ai envisagé à un moment, en effet, un parallèle avec le procès de Ceausescu, et j'ai un peu regardé, mais ensuite je suis tombé dans la marmite de la Révolution française et j'essaye d'en sortir péniblement. Mais ce que je peux dire, c'est que les guillemets autour de judiciaires qui sont nécessaires ici, pour le procès de Ceausescu, c'est pas un procès en fait. Il y a eu une mise en scène, c'est tout à fait expéditif. Et d'après moi, ce que j'ai pu voir, je crois qu'on n'a pas de retranscription de ce procès. On peut peut-être obtenir la vidéo d'une manière ou d'une autre, puisque ça a été filmé et retransmis en direct, si je me souviens bien. Je pense que la femme de Ceausescu est tout à fait silencieuse, et je ne sais pas à quel point elle est... d'autres sont certainement mieux informés que moi, mais je ne sais pas à quel point on s'occupe de son cas. Mais sans doute, il y aurait des est-ce qu'elle pouvait représenter quelque chose de l'ancien régime communiste ou pas ? C'est une question. En ce qui concerne Marie-Antoinette, je dirais que les choses sont un peu plus complexes par rapport à cette dimension féminine. Je dirais qu'il y a deux grands volets. Il y a le fait que Marie-Antoinette était la femme de Louis XVI, et à ce titre, c'est un argument de défense qu'elle utilise pendant le procès. Donc, c'est-à-dire de dire, moi, finalement, je ne faisais que me conformer aux volontés de mon mari. C'est d'ailleurs sa dernière intervention orale au procès, c'est de dire ça. Évidemment, sur le plan historique, la situation de la monarchie française est tout à fait particulière avec l'existence de la loi salique. Et finalement, on peut être reine de France, mais on ne règne pas. Donc c'est un argument qu'elle pouvait utiliser. Maintenant, il y a tout l'aspect symbolique, évidemment. Ce côté féminin incarne d'une certaine manière un mal qui est typique de l'ancien régime et de l'organisation et de la cour de l'ancien régime. Et Marie-Antoinette, finalement, là, s'inscrit dans une évolution historique. Il faudrait s'intéresser à la manière dont les maîtresses de Louis XV ont été également, enfin, se sont construit une réputation et avaient une influence politique qui était très critiquée avant la Révolution. Évidemment, ce qu'on reproche à Marie-Antoinette, tout se base aussi sur une certaine réalité de frivolité, d'inconstance de la reine qui est connue à l'époque. Je dirais, pour comprendre toute cette affaire, il faudrait encore se référer toute une tradition intellectuelle qui ici, je vais citer à nouveau Rousseau, puisque c'est chez Rousseau qu'on trouve dans la lettre sur les spectacles, je pense, qu'il écrit à d'Alembert. C'est un écrit extrêmement misogyne de Rousseau, et sur lequel les révolutionnaires vont s'appuyer, où Rousseau, très explicitement, dit que si on construit une république, il faut que ce soit une république d'hommes, que les femmes n'ont pas à y participer, que les femmes doivent s'occuper du foyer et ont un rôle dans l'éducation des citoyens, et que donc il y a un élément de misogynie politique qui s'appuie sur une construction théorique, je dirais, qui est reprise par les révolutionnaires et qui ne joue pas en faveur de Marie-Antoinette à ce moment-là.
Oui ? Non ? Non, d'accord. Alors, je me demandais s'il y avait d'autres réactions par rapport aux questions qui ont été soulevées. Une intervention, oui.
Je voulais juste poser une question, enfin j'avais plein de questions, mais pour ne pas monopoliser la parole, par rapport à une des réponses que Madame Breton-Logoff a adressée à Julien et à Anne, s'agissant de la dimension populaire des tribunaux auxquels elle faisait référence, parce que vous avez expliqué de façon, à mon avis, symptomatique de la discussion qu'on a d'ailleurs cet après-midi. Vous avez expliqué qu'au fond, c'était quand même, bien sûr, il y avait des experts, etc., qui siégeaient dans ce tribunal et qu'ils n'étaient pas nécessairement représentatifs du peuple, mais qu'il y avait quand même beaucoup de victimes qui étaient amenées comme témoins et que ces victimes-là, elles, étaient issues du peuple. Et je voulais attirer votre attention sur le fait qu'au fond, cette réponse-là, elle est le symptôme de la réalité de ce tribunal, à savoir la confusion entre un tribunal réellement populaire. Je ne dis pas qu'on doit souhaiter un tribunal réellement populaire, ça c'est une autre question, mais un tribunal qui se dit populaire et sa réalité dont le caractère populaire est uniquement lié au fait qu'il donne une importance prépondérante et centrale aux victimes en tant que porteuses de la vérité qu'ils sont censés établir. Et en ce sens... voilà, ils ne sont pas populaires au sens où des juges issus du peuple, par exemple un jury populaire tiré au sort, par exemple, viendrait juger la question qui est posée, mais au contraire, ils sont simplement populaires parce qu'ils donnent la parole davantage et selon moins de procédures, selon moins de contraintes sans doute que la justice ordinaire, aux victimes pour qu'elles puissent exprimer, aux victimes au sens général du terme, pour qu'elles puissent exprimer leur récit. Donc voilà, c'était juste...
Je me demandais s'il y avait d'autres questions dans la salle. Non. Eh bien, alors, dans ce cas-là, je vais repasser la... Ah, monsieur a une question. Très bien.
Voilà. Je voulais savoir, Madame Breton-Legault, au niveau des tribunaux populaires, si souvent il y a un impact sur... par rapport par exemple, dans le cas à Bruxelles, il y a cela 4 ou 5 ans, il y a eu un tribunal populaire pour les mesures qui sont prises dans les centres fermés pour les enfants. Et il y a eu un impact dans le sens de l'institution, où il y a eu un changement, que les enfants ont souvent été... on a enlevé les enfants des centres fermés, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir s'il y a souvent le cas qu'il y a un impact après au niveau de l'institution par rapport au cas qui est défendu lors d'un tribunal populaire. Voilà, merci.
Oui, j'ai pu effectivement documenter à quelques reprises que la tenue des tribunaux populaires ont pu avoir un impact, notamment en termes de résolution de conflits. C'est le cas de certaines sessions du Tribunal international de l'eau pour les sessions d'Amérique latine. À deux reprises, les défendeurs, qui étaient en fait des entreprises privées d'exploitation pétrolière pour l'une et l'autre d'exploitation minière, qui avaient au cours de l'exploitation pollué abondamment les terres ancestrales d'un certain nombre de peuples autochtones, ont négocié avant la tenue publique du tribunal. C'était une des affaires qui devait être traitée par le tribunal, parce que ces tribunaux traitent plusieurs... Le tribunal de l'eau traite plusieurs affaires au cours d'une même session. Et ont approché les demandeurs dans cette affaire et négocié un accord amiable, offert une réparation, de façon à ce que les demandeurs retirent leur plainte. C'est une façon de gérer finalement l'image au niveau international de l'entreprise. Alors, c'est très anecdotique pour ce qui est de la résolution des conflits. Et par ailleurs, je dois dire que quand vous travaillez sur les tribunaux non gouvernementaux, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'information de première main, de travailler sur les documents originaux et surtout de pouvoir faire le suivi de l'impact qui se passe après. Parce que ces tribunaux sont très souvent des tribunaux ad hoc, où ils tiennent une ou deux séances de deux jours et ensuite ça s'arrête là. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu lieu à un moment où la circulation de l'information sur Internet n'était pas encore privilégiée.